Alors, bonjour, merci d'être là. Je m'appelle Lise Gauvin, je suis professeure et vice-doyenne à la recherche à l'École de santé publique et je suis chercheure et responsable du CAFO d'innovation et d'évaluation en santé ici au Centre de recherche du CHUM. C'est une chance inouïe de pouvoir présenter immédiatement après l'allocution de notre scientifique en chef, le Dr Rémi Quirion, parce que nous, ce qu'on va discuter, c'est la santé connectée, une utilisation éclairée qui ouvre un champ de promesses. Et quand on va parler d'utilisation éclairée, en fait, ce qu'on veut dire, c'est éclairée par les données scientifiques et les procédures scientifiques. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on veut parler de santé connectée? Ben, en fait, on a entendu au cours des derniers jours de parler beaucoup de la quatrième révolution scientifique, les révolutions industrielles. Eh bien, nous y sommes. On a des objets connectés, on a des plateformes Internet, on a des technologies de détection, on a de la réalité augmentée, on a des données massives, on a d'autres objets connectés, on est capable d'imprimer en 3D, et tout ça, il faut se l'approprier. Il y a différents termes, et on aura l'occasion d'entendre Guy Paré sur ces termes-là un petit peu plus tard dans l'avant-midi. C'est qu'il y a différents termes qu'on voit, et on ne fera pas de menu distinction, mais on voulait dire que c'est tout ça qui nous intéresse ici. On parle, dans le monde anglophone, on parle de e-health, m-health, u-health. E-health, pour parler de pratiques professionnelles qui sont appuyées par des processus de communication électronique. Le M-Health, c'est des pratiques professionnelles qui peuvent être appuyées par des objets connectés comme les objets, les téléphones cellulaires, les tablettes, les moniteurs, les GPS et autres. Et on va en entendre parler un petit peu plus tard. Et on parle aussi du U-Health. Le U en anglais veut dire ubiquitous, ça veut dire omniprésent. Et par exemple, c'est de l'éclairage qui va être détecté ou qui va être allumé par un mouvement ou l'enregistrement automatique de transactions qui sont commerciales. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour assurer une utilisation éclairée? Bien, je vous propose un certain nombre de choses. Et une première entrée en matière, il y a eu beaucoup de documentation qui a été produite au cours des dernières années. Et entre autres, la Commission européenne nous propose que d'investir efficacement dans le numérique en santé, c'est de poursuivre des objectifs de qualité, d'efficacité, d'équité et d'accessibilité. Et ça, je pense qu'il faut en tenir compte. Donc, ce n'est pas seulement de savoir que les choses sont efficaces, mais c'est de savoir qu'on est capable de faire en sorte que tout le monde puisse profiter des bienfaits qui sont apportés par ces nouvelles technologies en santé. Comment est-ce qu'on peut cultiver le champ de promesses? Et c'est le titre, ce qu'on a mis dans le titre. Bien, il y a un document qui a attiré notre attention. Plusieurs d'entre vous connaissez certainement le National Institute for Health and Care Excellence, qui est au Royaume-Uni, et eux se sont penchés sur cette question-là de dire comment est-ce qu'on peut penser la donnée scientifique en fonction des technologies numériques en santé. Et ils ont produit, en décembre 2018, un document qui s'intitulait Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies. C'est marqué mars 2019, là, j'ai pas cligné des yeux, là. La version 1.0 a été publiée en décembre 2018. Ils ont, dès le moment du lancement, ils ont fait une consultation et les consultations étaient telles que dès mars 2019, ils ont publié une version 2.0. Et on a trouvé que ce document-là était suffisamment percutant qu'on veuille en faire la traduction. Alors, au Carrefour de l'innovation et d'évaluation en santé, ici au Centre de recherche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit aux collègues du NICE et on a dit, est-ce qu'on peut avoir la permission pour traduire ce document-là et de l'afficher dans la langue française? Et j'aimerais vous dire d'entrée de jeu que notre objectif en faisant ça n'était pas de dire, on prend bloc par bloc ce qui s'est fait au Royaume-Uni et on l'implante au Québec. Notre objectif était plutôt vraiment, mais vraiment, de commencer un dialogue et de commencer une conversation de dire qu'est-ce qu'il y a dans ce document-là qui rejoint nos préoccupations, parce qu'on a des préoccupations qui sont partagées, et qu'est-ce qu'il y a de unique qui se passe ici au Québec que l'on voudrait vouloir faire une adaptation. Alors, l'activité de ce matin est destinée justement à initier cette conversation-là. En particulier, nos objectifs sont de favoriser l'appropriation de ce cadre normatif de preuve, donc le Evidence Standards Framework, on a appelé ça un cadre normatif de preuve, et j'aimerais vous dire qu'on a beaucoup lutté avec la question de la traduction qui soit valide et qui soit fidèle, et ça fait partie des discussions. Si vous avez des commentaires sur le vocabulaire qui est utilisé, on va le cueillir avec intérêt pour qu'on puisse faire des ajustements aux dits documents. On va présenter, on a la possibilité d'avoir une demi-douzaine de conférenciers qui vont présenter des exemples de développement et d'évaluation des technologies et interventions numériques. Et donc, vous allez pouvoir en entendre parler. Et on va être tenté d'identifier collectivement des actions qui pourraient être mises en œuvre éventuellement dans nos différents milieux pour favoriser une adoption qui soit appropriée des nouvelles technologies numériques en santé. Alors, pour ce faire, plusieurs d'entre vous me connaissez, ils ont déjà participé à des événements où j'étais le lead. Alors, il y a deux consignes que je vous donne aujourd'hui. J'incite toujours l'audience à donner une ovation debout aux conférenciers. Restez assis, je ne vous ai pas demandé une ovation debout tout de suite, ça viendra. Et donc, on va vous faire travailler physiquement, mais on pense que ça va nous permettre d'oxygéner notre cerveau davantage. Mais le deuxièmement, c'est que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vous inciter à aller chercher du input de votre part, parce qu'on pense que compte tenu de votre vécu professionnel, de votre vécu comme patient, vous avez beaucoup de choses à offrir sur les présentations qui vont être faites ici. Alors, je vous invite, pour celles et ceux qui, vous avez tous un téléphone ou un ordinateur, normalement, les gens sont hyper branchés, je vous invite à aller sur la page qui s'appelle live.voxvote.com. Vous allez voir ce qu'il y a en bas de l'écran. Vous allez voir 5-digit event, 83668 pour celles et ceux qui ne verraient pas jusque dans le fond de la salle. Et probablement que vous allez voir apparaître quelque chose comme ça qui dit « Waiting for a new question ». C'est correct. C'est bon? Tout le monde y est? Là, j'aimerais juste vous dire que quand je faisais mon bac en kinésiologie, il y a un de nos professeurs qui était un philosophe qui nous disait « Il faut augmenter notre niveau de tolérance à l'insécurité ». Et c'est ce que je suis en train de faire parce que là, je vais basculer vers l'Internet. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez répondre à vos questions confortablement assis dans vos sièges. Et ensuite, on va projeter les résultats à l'écran. C'est bon? J'espère que ça va marcher. Alors, je répète, 83668 et c'est live.voxvote.com. Alors, la première question, on va essayer avec une question facile, juste pour voir si le système fonctionne. C'est que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser une question et vous aurez juste à choisir un des réponses. La question se lit comme suit. Laquelle des options suivantes décrit le mieux les fonctions que vous occupez actuellement? Vous êtes chercheur, vous êtes professionnel de la santé, vous êtes employé du gouvernement ou de l'hôpital, employé de l'industrie privée, agent de recherche, étudiant stagiaire, autre, ou vous préférez ne pas répondre? C'est toujours une consigne qu'on doit inclure quand on va au comité d'éthique à la recherche. Et juste pour votre information, les informations qui sont cueillies ici sont anonymes. Nous ne sommes pas passés par un comité d'éthique parce que nous considérons que c'est... Ça ne marche pas? Un instant. Pardon? Ah oui, start. Oui, oui. Il faudrait que je paye sur start. Vous avez 60 secondes. Merci des consignes. C'est ça le travail en collaboration. C'est apparu. Des fois, vous devez cliquer sur « Reconnect ». Ça y est? Bon. Là, je vais peser sur « Stop » en espérant que ça a fonctionné. C'est pour ça qu'on essayait avec une question test. Et c'est là que ma tolérance à l'insécurité est vraiment mise à l'épreuve. Voilà. Ça a fonctionné. Alors, vous êtes majoritairement des professionnels de la santé. On a aussi plusieurs employés du gouvernement ou de l'hôpital, un certain nombre de chercheurs, d'agents de recherche et un peu moins d'étudiants et ainsi de suite. Il n'y a personne qui a dit qu'il ne voulait pas répondre. Merci, c'est super. Alors, nous passons à la question suivante. Et là, je vais me souvenir de peser sur Start, mais je vous lis la question. Avez-vous déjà entendu parler du concept de standard de preuve ou de evidence standards? Oui, non, je ne sais pas, je préfère ne pas répondre. Vous êtes obligé des fois de recliquer sur « Reconnect ». C'est bon? C'est bon? Dans le fond, là-bas, on me dit oui, on fait un signe de la tête. On arrête, on va regarder vos réponses. Alors, vous êtes à 50% de parmi les 60 personnes qui ont répondu, qui ont dit oui, ils ont déjà entendu parler de là. Là, on va vous faire travailler un petit peu plus fort. À votre avis, avant d'implanter une technologie numérique ou une application mobile ou une autre intervention numérique à grande échelle dans le réseau de la santé, quel type de données probantes, ou ce qu'on appelle en anglais « evidence », devrait être disponible? Je pèse sur « Start ». Et là, c'est une réponse ouverte, fait que faites aller vos pouces ou vos doigts. Rapidement, parce que vous n'avez que 60 secondes. C'est beau de voir ça. Surtout d'entendre un silence comme ça. Il ne vous reste que 20 secondes. Dépêchez-vous à peser, même si vous n'avez pas terminé les idées principales. 15 secondes. Pesez sur « Envoyer maintenant » si vous voulez que votre réponse apparaisse. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et voilà. 45 personnes. Vous voyez, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va l'arrêter. On va arrêter. Donc, ce qu'on voit ici, parmi les réponses, on a un nuage de mots qui est apparu ici, mais on voit ce qui ressort le plus, c'est la question des données. Il doit y avoir des données, et ça, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'autres matériels qui sont proposés. Acceptabilité, acceptable, sans risque, acceptable, des versions alpha, bêta, de l'analyse. Aucune, seulement la fonctionnalité doit être connue, la vie des patients, les coûts et les bénéfices, un type d'essai clinique avec des groupes contrôlés, degré d'aisance de la technologie, documentation et personnes disponibles, données de recherche empiriques, données, c'est pour ça que c'est sorti en gros mots avec le nuage de points, l'efficacité clinique et économique, essai clinique randomisé et essai pragmatique, evidence-based practice, les experts, la fiabilité des guidelines, des lignes directrices, l'identification patient, impact patient, info sur l'utilisation des données privées, innocuité versus efficacité, intérêt de la clientèle, perspective des utilisateurs, preuve efficace, données pilotes, population, essais cliniques. On veut essayer de voir est-ce que c'est reproduisible, résultat d'une étude comparative, des risques et bénéfices attendus, s'assurer de la sécurité des données, taux d'adhérence, utilité et acceptabilité. Alors, ces informations-là, comme je vous dis, on les garde, on pourra les partager après, on veut retirer ce qu'il y a de commun, mais j'aimerais vous dire que dans le document du NICE, il y a beaucoup d'éléments qui se rapportent à ça, et je vais vous faire la présentation dans la deuxième partie après la pause. Une autre question. Quel est le rôle des patients partenaires dans l'évaluation des technologies numériques ou applications mobiles ou autres interventions numériques? J'aimerais que vous vous prononciez là-dessus. C'est une question ouverte et je pars la minuterie dès maintenant. 60 secondes. Le rôle des patients partenaires dans l'évaluation des technologies numériques ou applications mobiles ou autres interventions numériques. Il vous reste 30 secondes. Préparez-vous à peser sur « Send ». Cinq, quatre, trois, deux, un. Ça y est. Voilà. Donc, on va arrêter ça ici. Alors, on va regarder le nuage de mots. Les besoins, ça, on voit des là, des le, des des. Alors, on va regarder plus... OK. Acceptabilité, utilité perçue, alimenter la base de données, application aux besoins des répondants, approche marketing, satisfaction client, dès la conception de l'outil, l'avis des patients, avoir leur avis sur l'utilité, co-construction, ça c'est intéressant, consultants et efficacité des consultants, création des points à évaluer, transfert de connaissances, témoignages peut-être aux décideurs, j'extrapole bien entendu, sur l'efficacité des interventions, l'évaluateur, l'évaluation d'impact, la facilité d'utilisation, faire évoluer l'application, la faisabilité du projet, simplicité, facile d'accès, le feedback, fournir leur opinion sur le niveau de confort, d'être impliqués non seulement pour l'évaluation, mais pendant le processus, ils doivent définir les indicateurs d'évaluation. C'est important, c'est crucial. Indications sur les mesures, input dans l'évaluation et la mise en place, faire part de leur expérience, les enjeux vécus, participation à titre de consultant, de parler de leur expérience et de leurs préférences, collaborateurs aux études, participation importante, pertinence des besoins, plan, test et diffusé, fait pour la recherche, représentant des usagers potentiels, assurer la nouvelle techno réponde bien aux besoins souhaités, les témoins aviseurs, tester et corriger, tester l'application dans la vraie vie, tester les applications, voir si elles sont faciles à utiliser, conseiller quant au contenu, voir l'acceptabilité, user experience, feedback, amélioration et validation. J'aimerais vous dire que dans le document du NICE, il y a des éléments qui touchent à tout ça et on va vous en saisir, donc il y a un bon point de départ. Je pense qu'il reste une autre question avant. Et ici, c'est une question qui va être plutôt facile, qui va prendre juste quelques minutes. Qui devrait fournir les ressources financières et le personnel requis pour évaluer l'efficacité des technologies numériques ou les applications mobiles ou d'autres interventions numériques? Et question, évidemment, de la durabilité ou la possibilité de pérenniser du point de vue financier. Donc, on vous pose la question, c'est juste un clic et on commence maintenant. Les organismes subventionnaires, les industries privées, les organisations de santé, des partenariats publics-privés, autres, je ne sais pas. J'aurais voulu paramétrer la chose pour que vous puissiez cliquer plusieurs réponses, mais ce n'était pas possible dans ça. Donc, je comprends que je vous ai mis un peu dans un carcan. 30 secondes, ça y est, on peut arrêter? Vous ne l'avez pas, vous cliquez sur « Reconnect ». Vous allez sur live.voxvot, 83668, « Reconnect ». Ça y est? OK. Alors, 10 secondes. Voici vos réponses. Alors, vous avez été plusieurs à dire que ça doit faire partie des partenariats qui sont publics-privés. D'autres, c'est des organismes subventionnaires. D'autres qui disent que c'est les organisations et peu qui disent que ce sont les industries privées. Et une petite minorité qui disent qu'ils ne savent pas. Alors, sur ce, j'aimerais revenir peut-être à la description de notre événement. Tout au long de la journée, on va vous poser des questions. Donc, gardez votre téléphone qui soit proche. Et s'il y a des gens qui se rajoutent, on va les inviter à aller sur livevoxvote.com, 83668. On va vous poser des questions. Mais j'aimerais vous faire un topo sur la présentation. Et après ça, je pense, Rachel, c'est le temps de la pause? Ou presque, à peu près?
À 10 heures.
Et donc, il est 9h41. Mais en fait, si Guy est prêt, on pourrait peut-être enchaîner avec la présentation. Donc, je voulais juste vous dire, c'est qu'on a Guy Paris qui va nous faire une présentation, qui va nous parler du grand monde de la santé connectée. José Côté, François Tournoux, Néla Mazgani, Rudolf de Patureau, José Arsenault et Yann Kestens vont nous présenter des exemples de technologies numériques en santé qui sont en train de développer puis qui sont en train de tester, soit dans les milieux scientifiques, soit dans les milieux de pratique. Et ensuite, on aura à la toute fin deux personnes qui ont beaucoup d'expérience en ce qui a trait au vécu du patient, d'une part, mais aussi sur la santé connectée, c'est-à-dire Alexandre Grégoire et Marie-Pascale Pommé. Et j'aimerais juste vous avertir d'une chose, c'est qu'on va faire toutes ces présentations-là, mais après les présentations de Guy, José, François, Néla, Rudolf, José et Yann, vous allez revenir sur live.voxvote et vous allez avoir deux questions qui vont vous être posées. Ce sera toujours les deux mêmes questions. On les a paramétrées pour savoir les réponses à quelle présentation. On va vous demander quelle est l'idée principale que vous retenez de cette présentation et quel élément mentionné lors de la présentation doit être un incontournable pour assurer la valeur ajoutée et l'efficacité des technologies et interventions numériques pour le bénéfice des patients et des citoyens. Donc, on va enchaîner avec la présentation de Guy, puis on reviendra après la pause pour vous parler plus spécifiquement du cadre et entendre les collègues qui ont les deux pieds dans le développement des technologies numériques en santé. Alors, puisqu'il n'y a pas eu d'ovation debout encore, on va donner une ovation debout avant que Guy présente. Alors, allez-y, on se lève.
C'est celle-ci, là, GP, c'est ça.
Alors,
merci.
Merci.
Bon matin tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Alors, merci Lise pour cette invitation. En fait, on me demande de faire une mise en contexte, mettre la table pour le reste de l'avant-midi en faisant une introduction très haut niveau de ce qu'on entend par la santé numérique ou ce qu'il est convenu d'appeler la e-santé. Je pense que c'est un tour de force de faire ça dans une vingtaine de minutes. Je ne suis pas convaincu que je vais avoir réussi, mais en fait, je vais faire de mon mieux. Alors, sautons. E-santé, je suis persuadé que si... J'agissais à titre de professeur, que vous étiez mes étudiants, que je vous demandais de me fournir votre propre définition de ce qu'est la e-santé, je recevrais une centaine de définitions différentes. Hein? On a chacun notre propre conceptualisation, mais comme c'est moi qui ai le micro ce matin, bien, j'ai le privilège de vous partager ma propre conceptualisation du sujet. Comme j'y ai longtemps réfléchi, ça me fait plaisir de vous la partager. Alors, la e-santé, en fait, ce n'est pas un champ disciplinaire comme les sciences de la santé ou sciences de la vie. C'est un sujet de recherche. C'est un grand thème de recherche qui est souvent mené par des chercheurs qui proviennent de disciplines comme l'informatique médicale et en collaboration avec d'autres disciplines comme l'informatique et les systèmes d'information. Maintenant, la e-santé, en fait, ce sont les domaines de la santé qui interpellent ou qui recouvrent les différents types de technologies, de l'information et de communication, pour présenter ça de manière très vaste. Maintenant, quels sont les sous-domaines qu'on retrouve la plupart du temps ou qui sont les plus étudiés? Alors, les thèmes sont les suivants, la santé connectée, le dossier de santé personnelle, la télésanté, la robotique, les systèmes d'information qu'on retrouve dans les établissements de santé comme le DCI, le DME, l'intelligence artificielle 2.0, etc. Ce sont les principales. Maintenant, pour chacune d'elles, on pourrait les exploser. Alors, j'ai pris deux exemples ici. La santé connectée, je vais y revenir tout à l'heure. La télésanté, en fait, il y a plusieurs formes. On est quand même à l'avant-garde au Québec en matière de télésanté depuis un bon bout de temps, en raison des grandes distances notamment. Télésoins à domicile en lien avec la gestion de la maladie chronique. Alors ça, je pense qu'on est un chef de file en matière de télésoins depuis plusieurs années et plusieurs pays nous regardent comme un modèle à cet égard. Téléexpertise, c'est lorsqu'il y a deux professionnels de la santé, ça peut être deux médecins comme ça peut être un médecin et un autre type de professionnel qui vont faire une consultation à distance afin de régler un problème de santé ou de faire un suivi tout simplement. Et la téléconsultation, c'est lorsque un patient fait une consultation médicale en présence d'un médecin à distance. Alors ça, ce n'est pas un modèle qui est encore très répandu au Québec, mais qui existe. Je pourrais vous en glisser un mot tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans ça, c'est de voir la e-santé comme étant un écosystème. Donc, on voit de moins en moins chacune de ces bulles oranges comme étant des silos. Maintenant, on voit de plus en plus de liens, je vais vous donner des exemples à travers ma présentation, qui montrent que bien, les données en lien avec la santé connectée peuvent être justement utilisées dans le cadre d'un dossier santé personnelle, peuvent être utilisées aussi dans le contexte de projets de téléconsultation. OK? Et la même chose avec le lien entre la santé connectée, l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut voir la télésanté comme étant, la e-santé comme étant un écosystème d'applications qui sont de plus en plus interconnectées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très brièvement, je voulais faire cette annonce comme quoi que même l'OMS voit la santé numérique comme étant un virage obligé et en début d'année a créé un département qui est dédié à la santé numérique. Et une des premières actions que l'OMS a fait en lien avec la création de ce département, c'est de publier un document qui renferme une dizaine de recommandations liées à l'usage et à la gestion des technologies de l'information par rapport à, par exemple, la politique qui vise à protéger la vie privée des individus, la gouvernance qui permet d'éviter le fractionnement et la fragmentation des systèmes et assurer une grande interopérabilité entre les applications, etc. Donc, c'est un document qui est fort intéressant. Il est disponible sur le site de l'OMS, donc je vous invite à le consulter. Maintenant, je vais faire un zoom-in sur la santé connectée en tant que telle. Alors, il y a plusieurs définitions. Moi, j'aime bien celle de la Haute Autorité de santé, qui est l'équivalent de l'INES ici au Québec, qui dit que la santé connectée regroupe l'usage d'applications mobiles et d'objets connectés dans le cadre de pratiques médicales ou de santé publique pour le maintien et l'amélioration de la santé des individus. Donc, dans le fond, c'est l'usage des applications mobiles et des objets connectés. Vous avez ici plusieurs objets connectés avec lesquels on est familier. Alors, la montre qui permet de suivre plusieurs paramètres en lien avec le fitness, l'activité physique, la balance connectée, la brosse à dents connectée qui permet de faire une évaluation de la santé buccale ou du brossage. Et puis, vous avez d'autres applications comme le matelas connecté qui permet d'évaluer les phases du sommeil, leur durée, les micro-réveils et puis la température de la chambre. Va faire un bilan du sommeil à son utilisateur qui doit porter un bracelet et qui doit aussi faire un certain nombre de recommandations ou de conseils d'experts pour améliorer le sommeil, évidemment. Donc, vous avez d'autres applications ici, peut-être un peu moins connues. La fourchette connectée ne permet pas de mesurer le nombre de calories consommées, mais plutôt la vitesse à laquelle la personne mange. Alors, si la personne consomme son repas trop rapidement, alors vous êtes alerté, comme quoi qu'il faut ralentir pour favoriser une meilleure digestion. Ici, ce sont d'autres applications que je trouve très intéressantes, mais pour lesquelles on entend moins souvent. Donc, vous avez un bracelet ici qui est anti-nausée pour les transports. Alors, plusieurs personnes ont ces problèmes-là lors des transports ou encore l'usage de la réalité virtuelle. Donc, il y a un bracelet qui est utilisé, qui repose sur le principe de la neuromodulation, à savoir qui envoie des impulsions aux nerfs situés sur le poignet qui bloquent la nausée stomacale. Vous avez à côté le protège-dents connecté pour les enfants. Donc, plusieurs parents vont craindre d'envoyer leurs enfants dans des sports à contact en raison des commotions cérébrales. Donc, vous avez ce protège-dents qui va enregistrer les chocs et leur sévérité. Vous avez pour les femmes enceintes les capteurs qui permettent de suivre les contractions. Donc, ça peut être utile en fin de grossesse pour décider s'il est pertinent de se rendre à l'urgence ou non. Vous avez l'anneau dédié au fitness. L'anneau, c'est en fait pour les gens qui n'aiment pas porter la montre, de bracelet d'activité. Alors, c'est simplement un anneau qu'on porte au doigt et qui a les mêmes fonctionnalités. Et vous avez les vêtements connectés, dont les chaussures, qui permettent justement de monitorer la course en niveau de le poids, la durée d'appui au sol, etc. Donc, pour adapter la posture. Et puis, vous avez la montre. Qui permet de faire une lecture de glycémie. Alors, plutôt que d'avoir un prélèvement sanguin, c'est une montre avec des micro-aiguilles de 0,05 mm qui vont percer l'épiderme, qui vont aller chercher le liquide interstitiel, faire une analyse, biomarqueur, et vont donner une lecture de glycémie. Alors, cette montre-là a été développée par une start-up française et puis est maintenant commercialisée. voyez ici une statistique assez parlante de l'évolution du nombre d'objets connectés dans le monde. Ce ne sont pas uniquement les objets connectés liés à la santé, parce qu'on peut aussi ajouter à ça la domotique et les autres champs. On est à plus de 26 milliards d'objets connectés dans le monde présentement. Une statistique qu'on voit souvent, c'est qu'environ le quart de tous ces objets connectés sont liés à la santé. Évidemment, l'avenue de tous ces objets connectés n'a fait que renforcer ce mouvement de quantification de soi, ou en anglais ce qu'on appelle le « quantified self ». C'est un mouvement qui est amorcé en 2007 en Californie par deux anciens éditeurs de la revue Wired, une revue très connue, prisée dans le monde de l'informatique. Et le motto de ce mouvement citoyen, c'est de dire « on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer ». Je pense que ça, c'est très parlant. Et l'idée, c'est de se connaître pour mieux vivre. C'est la finalité qui est poursuivie par les adeptes de ce mouvement, qui est en croissance et qui est maintenant qui a largement dépassé le cadre de la Californie, qu'on retrouve un peu partout sur la planète. Alors, nous, on s'est intéressés avec le CIFRIO et InfoRoute. En 2017, on a fait une enquête populationnelle auprès de plus de 4000 citoyens adultes au pays, pour voir dans quelle mesure est-ce que les gens utilisaient les objets connectés, les applications mobiles, pour s'auto-mesurer en lien avec un ou plusieurs aspects de leur santé. Alors, on avait trois catégories de répondants. Les trackers connectés, les trackers traditionnels, ce sont les gens qui vont monitorer un facteur de risque, par exemple, en lien avec l'hypertension, le diabète, en utilisant un calepin. Ou un fichier Word ou un fichier Excel. Et les non-trackers, ce sont les gens qui ne s'auto-mesurent pas du tout. Alors, à notre grande surprise, 40 % des répondants nous ont dit être dans la première catégorie, donc les personnes qui ont utilisé au cours des trois derniers mois plusieurs objets connectés et applications mobiles. 26 % les traditionnels et environ le tiers de la population dit ne suivre aucun paramètre en lien avec leur santé et leur bien-être. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qui parmi ces trois catégories, quel est le profil de ces gens. Alors, ça n'a rien à voir avec le sexe, hein? Il n'y a pas de différence, mais évidemment, comme on pouvait s'y attendre, c'est beaucoup lié à l'âge. Donc, les trackers connectés sont 60 % des 18-34 ans qui ont répondu font partie de la première catégorie. C'est en Alberta où on retrouve le plus grand nombre de trackers connectés. Vous avez posé la question, mais pourquoi l'Alberta? C'est parce que c'est en Alberta qu'on retrouve la population la plus jeune, la population adulte la plus jeune. Ensuite, on a évidemment trouvé des liens clairs entre le fait d'être un tracker connecté et le revenu familial, parce qu'évidemment, les objets connectés, plusieurs d'entre eux coûtent très cher. Le niveau d'éducation, le statut socio-économique, et puis le fait d'avoir une ou plusieurs maladies chroniques ou aucune maladie chronique. Donc, dans le fond, les trackers connectés, comme vous l'avez vu, ce sont normalement en majorité des jeunes adultes. Donc, c'est normal de constater que ces gens-là ne souffrent pas d'une ou plusieurs maladies chroniques. On parle de quantification de soi, mais de plus en plus d'augmentation de soi. Donc, plutôt que de parler d'objets que l'on porte sur nous, hein, ou que l'on attache à nous, maintenant, il y a de plus en plus de technologies que l'on insère à l'intérieur de notre propre corps. Donc, on parle de transhumanisme ou de quatrième, Lise parlait de quatrième révolution industrielle, bien, on est vraiment là. Et puis, alors, si vous allez, par exemple, dans un pays comme la Suède, bien, il y a plusieurs milliers de personnes qui se sont déjà fait pucer. Donc, on a des puces à l'intérieur de nous qui permettent à ces gens-là d'utiliser leur photocopieur au travail, de payer leur consommation à la cafétéria, d'accéder au gym, etc., etc. C'est un mouvement qui est très fort dans les pays d'Europe du Nord. Et puis, voilà. Donc, même maintenant, on utilise ça pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Pour vous donner un exemple très concret, en 2018, la FDA aux États-Unis a approuvé le premier capteur intelligent sous-cutané, qui doit être évidemment inséré par un médecin, mais qui permet de faire un suivi du taux de glycémie d'un individu. Juste pour donner un autre exemple d'utilisation de la technologie dans un contexte de transhumanisme, maintenant vous avez cette entreprise, encore une start-up française, BoneTag, qui a rendu disponible cette puce RFID qui est insérée dans la prothèse du genou et qui permet justement de faire un diagnostic, à savoir dans quelle mesure est-ce que la prothèse qui est insérée est usée, est-ce qu'il y a un risque d'infection, etc. Aujourd'hui, le seul moyen de savoir ça, c'est de faire une chirurgie. Alors, on peut faire ce diagnostic maintenant à travers le smartphone qui est connecté à la puce, qui s'insère dans un boîtier qui a la grandeur d'une carte SIM. Donc, c'est vraiment très petit. Alors, vous voyez, il y a plein d'innovations qui sont en train de se développer en lien et qu'on va retrouver de plus en plus à l'intérieur de notre corps. Maintenant, comme n'importe quelle innovation, il y a des belles promesses derrière tout ça, mais il y a des enjeux. Alors, des enjeux de différentes natures. On peut penser à l'éthique. Dans quelle mesure peut-on fixer des limites à l'action de l'homme sur lui-même et sur la vie en général? Quelles sont les limites à l'amélioration? Peut-on modifier la structure de notre cerveau à l'aide de technologies? Parce qu'on pourrait pousser la réflexion jusque-là. Parce que ça serait super de pouvoir parler 150 langues. Tout le monde rêve de ça. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Est-ce qu'on peut aller vers ça? Okay, alors, il y a comme une réflexion éthique et même légale qui doit être lancée. Je dis ici, un cadre législatif aux pratiques d'amélioration de l'humain est nécessaire au même titre que la loi bioéthique interdit le clonage, même thérapeutique. Alors, on est loin de là pour l'instant. Comme c'est souvent le cas, la technologie devance le cadre législatif. D'un point de vue social, il y a également beaucoup de réflexions à y avoir dans l'optique où est-ce qu'on veut arriver à une société avec deux catégories d'individus. Les individus intacts et les individus augmentés. Et là, je pense que ça va à l'encontre des aspects d'égalité et de « digital divide » auxquels on fait souvent référence. Donc, il y a une réflexion collective à y avoir en lien avec vers où on veut aller en matière de santé connectée. Bon, l'intelligence artificielle, je vais l'aborder très rapidement. Parce que je pense que c'est un sujet qui a été déjà longuement couvert dans le cadre de la conférence. En fait, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'au-delà de toutes ces belles promesses que l'intelligence artificielle nous laisse présager, puis il y a déjà des acquis, ça c'est super, mais en même temps, son développement, comme l'a expliqué M. Quirion tout à l'heure, demeure très complexe et risqué. Donc, je pense que cette notion de développement responsable de l'intelligence artificielle doit être au cœur des débats, des échanges. Et juste pour vous donner un exemple ici, là, je disais, par exemple, il faut... la plupart des projets ou des réalisations qui ont été effectuées jusqu'à présent sont basées sur des données de soins de santé, donc des données qui sont générées à l'intérieur des établissements de santé comme le CHUM. Donc, ce sont des données liées à la maladie. Mais qu'en est-il des données liées à la santé? Qu'est-ce qui génère la santé? Donc, où sont nos parcs? Où sont nos pistes cyclables? Où sont les zones de pollution sonore, atmosphérique? Quelle est l'incidence des facteurs sociodémographiques sur la santé? Qu'est-ce qui génère la santé? Je pense que c'est aussi important dans le développement de l'intelligence artificielle que les données liées à la maladie elle-même. Un autre aspect lié au développement responsable de l'intelligence artificielle, en fait, c'est le développement d'un cadre législatif adapté à la protection, lié à la protection des données privées ou de la vie privée. Donc, je donne l'exemple ici de l'application Ma carte métro et moi, dans l'optique où on peut collecter les données à savoir si vous mangez plus sucré ou plus gras que les recommandations de l'OMS. Alors, il y a toutes sortes de croisements, de déductions qu'on peut faire à partir de ces données qui peuvent entraîner un risque pour la vie privée des individus. Vous n'aviez jamais pensé à ça quand vous utilisez votre carte chez Métro? Pourquoi c'est important? Parce qu'au niveau du cadre réglementaire, d'abord, l'Union européenne a fait des progrès énormes avec leur RGPD, mais le problème avec cette loi, c'est qu'elle ne concerne que l'enjeu individuel au niveau du consentement. Elle ne concerne pas l'enjeu collectif associé à l'usage que les entreprises font de ces données massives qu'elles collectent. Donc, comment les algorithmes fonctionnent-ils? Dans quelle mesure sont-ils cohérents avec les lois en vigueur? Quelle est l'imputabilité des entreprises utilisatrices? Qui est responsable des effets discriminatoires envers certains groupes? Toutes ces questions sont sans réponse pour l'instant et ne sont pas couvertes par le RGPD. Alors évidemment, d'un point de vue légal, il y a énormément de travail à faire au Québec. Est-ce qu'il me reste du temps? Une minute. Alors, je voulais juste parler du dossier Santé Québec. En fait, vous êtes peut-être au courant de ce carnet Santé Québec qui a été lancé en 2018 par l'ex-ministre Barrette. Donc, c'est ce portail où les patients peuvent avoir accès à leurs données. On parlait beaucoup tout à l'heure dans la présentation de M. Quirion de mettre le patient au cœur de la démarche. Bien, ça, c'est une façon de le faire, c'est à travers le carnet Santé Québec. Maintenant, vous voyez ici d'autres États ou nations qui ont des initiatives similaires à celles du Québec. Avec un de mes professionnels de recherche à HEC Montréal, on est en train de faire une revue exhaustive de toutes ces applications. On parle de système de santé public, donc on n'étudie pas, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis. Et ça ici, c'est juste pour donner une idée de ce qu'on retrouve dans chacun de ces portails. On voit qu'au Québec, là, c'est assez limité. Hein? Ensuite, en termes de fonctionnalité, c'est la même chose. On trouve très peu de choses présentement avec le carnet Santé Québec. Okay? Donc, un des messages qu'on veut lancer, c'est qu'il faut s'inspirer davantage des expériences internationales pour bonifier non seulement le type d'informations qu'on retrouve dans le carnet santé, parce que présentement, il y a 6,5% de la population âgée de 14 ans et plus au Québec qui a créé un compte sur le carnet santé. Ça ne veut pas dire que les gens l'utilisent, ça veut dire qu'ils ont créé un compte. Hein? On ne parle pas d'utilisation. Alors, c'est très maigre encore. Donc, on a amorcé cette réflexion en se disant, mais qu'est-ce qui pourrait améliorer l'expérience patient? Qu'est-ce qui pourrait inciter un citoyen ou un patient à retourner fréquemment puis à utiliser de manière régulière le carnet santé? Vous avez des exemples ici de choses qui pourraient être facilement implantables. On parle aussi de saisie de partage de données santé de personnel issu d'objets connectés. Donc, si moi, je peux collecter mes données sur ma santé, mon bien-être, et transférer dans mon dossier santé, ce serait déjà une fonctionnalité intéressante. Il y a un débat présentement à savoir, justement, parce que de plus en plus de citoyens utilisent leurs objets connectés, comme on l'a vu tout à l'heure, 40% des adultes au Canada. Il y a un débat à savoir, est-ce que ces données-là doivent être transférées dans les DME des médecins de famille? Et la réponse, quand on a posé la question aux médecins de famille, c'est qu'ils n'en veulent pas de ces données. Hein? Puis on peut comprendre pourquoi. Mais si le patient peut transférer ses données dans son propre dossier, c'est ce qu'on retrouve notamment en Alberta, à Singapour et en Finlande, le patient peut donner accès à son médecin de famille pour qu'il puisse aller consulter au besoin ses données. Alors nous, on privilégie cette approche-là. Maintenant, téléconsultation médicale. Donc, pourquoi ne pas permettre la téléconsultation avec mon médecin de famille à distance, à travers la plateforme du carnet santé? Hein, on le voit ailleurs, ça existe. Ici au Québec, on ne le fait pas encore. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un acte médical qui est remboursable aux yeux de la RAMQ. Pas encore. Donc, il faudra adapter le cadre légal par rapport à ça. Mais il y a des applications qui existent déjà. Hein? Il y a beaucoup d'entreprises privées qui vont permettre à leurs employés, à travers leur régime d'assurance, d'avoir accès à des spécialistes, par exemple la firme Dialogue, qui est une start-up québécoise qui a justement mis en place une application qui permet à un patient de consulter une infirmière et un médecin au besoin pour régler un problème de santé. Voilà, donc ça met fin à ma présentation. En fait, un des messages que je voulais lancer, c'est que la e-santé, comme n'importe quelle autre innovation technologique, ce n'est pas une panacée. Hein? Dans le fond, elle vient avec son lot de promesses, et son lot, mais aussi son lot d'enjeux. Au niveau des promesses, évidemment, l'idée, c'est de pallier à nos problèmes en lien avec l'accessibilité et la prévention, notamment. Mais au niveau des enjeux, comme je l'ai souligné durant ma présentation, c'est pas uniquement les enjeux technologiques, hein, parce qu'il y en a, évidemment, mais il y a des enjeux humains, sociaux, légaux, éthiques. Alors, sur ce, bonne réflexion et merci de votre attention.
T'es chanceux, Guy, tu as eu deux ovations debout. On a le temps pour quelques questions, mais en même temps, je vais paramétrer je vous demande de revenir sur VoxVot. Et on va vous poser les deux questions qui avaient été annoncées. Alors, sur la question de Guy Paré, la première, vous pouvez poser des questions live à Guy si vous en avez. Mais quelle est l'idée principale que vous retenez de cette présentation? Je vous rappelle, live.voxvote.com, le numéro c'est le 83668. Vous devez peser sur « Reconnect » et ça démarre maintenant, vous avez 60 secondes. Quelle est l'idée principale que vous retenez de cette présentation? Ça y est? C'est son niveau de tolérance à l'insécurité là, qui est mise à l'épreuve. Là. Il vous reste 30 secondes. C'est le temps de commencer à penser au sommaire. Cinq, quatre, trois, deux, un, et voilà. On va regarder le nuage de points. On parle beaucoup de santé, santé, potentiel, enjeu. Si on regarde les éléments, et Guy, tu peux t'approcher puis peut-être faire des commentaires au fur et à mesure. L'idée retenue, beaucoup de potentiel, très complexe, complexité, complexité, complexité. Je pense que c'est un mot-clé qui ressort, merci. Confusion, connecté et innovant, création d'emplois, croissance de la e-santé, développement responsable. E-santé est un écosystème éthique, c'est aussi un thème qui ressort souvent. Innovation, information intellectuelle intelligente, avenir prometteur, interconnexion, la e-santé, la matrice sera bientôt la réalité. La question éthique qui revient toujours, santé connectée qui est omniprésente, santé, technologie, innovation, santé de plus en plus un écosystème, donc écosystème qui revient souvent aussi, objet connecté, télésanté, objet connecté de plus en plus utilisé, vaste monde de vastes, multiples possibilités, partenariat, plusieurs bénéfices, possibilités de développement, potentiel infini, prudence, santé, domaine de recherche, règlement via accessibilité, santé connectée est un enjeu d'avenir. Guy, je vais te demander de commenter. Puis en attendant, je vous pose la deuxième question. C'est les deux mêmes questions qui vont revenir après chacune des présentations. Alors, la deuxième, et tu peux commenter. Oui. Je veux juste la lire. Et puis, quel élément mentionné lors de cette présentation doit être un incontournable pour assurer la valeur ajoutée et l'efficacité des technologies et innovations numériques pour le bénéfice des patients et des citoyens? Vous avez 60 secondes et Guy, tu peux commenter sur le premier volet.
Oui, ben en fait, merci pour vos réponses. Je suis d'accord avec tout ce qui a été mentionné, évidemment. Mais j'aimerais revenir sur un élément. On a dit confusion pour le patient ou pour le citoyen. Je suis tout à fait d'accord. Si ce n'est que, par exemple, au niveau des applications mobiles liées à la santé, au bien-être, il y en a 800 000 sur le web qui sont disponibles. Alors, comment se retrouver? Parce que 80%, il y en a plutôt 4 à 500 000, mais 80% d'entre elles sont jugées non sécuritaires, donc n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de la part d'une association médicale ou autre organisme crédible comme l'INES, par exemple.
20 secondes.
Alors, ici au Québec, il n'y a pas vraiment d'aide pour le patient en lien avec l'usage de ces applications mobiles ou objets connectés, contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre où le NHS a créé un portail pour le public où on va recommander pour chaque différent type d'application mobile des applications qui sont jugées sécuritaires pour le patient. Et puis, sur ce même portail, on peut, même à titre de patient, donner une évaluation, un peu comme on fait sur TripAdvisor, hein, de cette application. Donc, je pense que ça, c'est déjà un guide intéressant. Maintenant, au Canada, ce qu'on trouve, c'est que l'Association médicale canadienne a généré un référentiel qui est destiné aux médecins. Et l'idée, c'est de donner un certain nombre de recommandations aux médecins lorsqu'ils recommandent, eux, des applications mobiles ou des objets connectés à leurs patients. Mais ce sont des grands principes, hein? Alors, mais il n'y a pas de listing comme on retrouve en Angleterre.
Alors, les réponses à la deuxième question, et ensuite de ça, on va se diriger vers la pause après avoir donné le dernier mot à Guy. Audace de collecter des informations, le cadre éthique, le cadre législatif, c'est ce que vous voulez, qui considérez que c'est des incontournables. Communication sur les considérations de santé, considérations éthiques et enjeux, consulter les patients, les renseigner, encadrement du e-health, équité, éthique, être conscient de l'implication des IoT, implication des patients, importance sur les questions éthiques qui revient très, très, très souvent, doit être tourné du côté du patient, mesuré, objet connecté, organisme responsable de validation, partenariat public-privé et les cours et la pertinence, protéger les utilisateurs, réflexion de société, réglementation, sécurité, simplicité, technologie, validation des données.
Ouais.
Dernier mot?
Ben, en fait, je pense que c'est un développement responsable de la santé numérique qui est important de garder à l'esprit. Et c'est pour ça qu'on a mis en place l'école de l'intelligence artificielle au CHUM. C'est pour ça qu'on a créé l'Observatoire sur l'intelligence, sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Qui est dirigé par une chercheure à l'Université Laval et auquel je suis associé. Alors, je pense que c'est important qu'on crée ces infrastructures pour s'assurer en tant que société qu'on ne développe pas n'importe quoi puis que ça réponde aux attentes du public et des patients surtout.
On va prendre une question très rapidement. Ensuite de ça, on va se diriger à la pause parce qu'on reprend à 10h30. Allez-y, monsieur.
Oui, bien, merci.
Vous nommez, s'il vous plaît.
Oui, Rémi Thériault. Merci pour la présentation, c'était intéressant. Moi, j'y vois deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a tout le développement des technologies propres à l'individu où l'individu lui-même décide de porter une montre versus celui qui dirige ou si je me fais implanter une valve ou un pacemaker. Et là, maintenant, l'industrie, bien, le pacemaker donne l'information à la compagnie qui permet au médecin d'aller contrôler mon pacemaker à distance en étant dans mes activités quotidiennes. Et là, j'y vois l'utilisation du DSQ. Est-ce qu'on ne peut pas encadrer, quand c'est dans un milieu médical ou c'est l'industrie qui embarque là-dedans, que la donnée soit retournée dans mon dossier et que je puisse la voir et la contrôler? Tu sais, que je porte une montre, je peux contrôler mon information, c'est moi-même. Mais quand c'est l'industrie qui embarque dans la santé, là, je vois une distinction.
Oui, tout à fait. Oui, tout ce que vous dites, c'est effectivement aligné avec ma présentation. Donc, dans le fond, l'idée d'un dossier santé personnel, c'est d'avoir accès justement à ces informations-là. On comprend qu'il y a aussi des risques associés au fait que le patient peut s'auto-diagnostiquer ou... alors, il y a des dangers associés à ça aussi. Alors, il faut que ça soit encadré. L'information qui est disponible dans un dossier santé, normalement, devrait être interprétée par un professionnel de la santé pour s'assurer justement d'éviter certains dérapages.